VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Ouagadougou, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Violence en République démocratique du Congo, manifestation de la population ce mercredi à Beni, grande ville du Nord Kivu dans l'est du pays, pour protester contre les nouvelles attaques des rebelles ADF. Les forces démocratiques alliées qui ont coûté la vie à au moins 10 civils dans la région mardi soir. Les protestataires ont particulièrement critiqué la MONUSCO, la mission onusienne sur place. Beni a été attaqué directement par les ADF pour la première fois depuis octobre 2018 et au moins 7 résidents ont été tués hier soir dans la localité. Plusieurs autres auraient été kidnappés par les assaillants. D'autres civils auraient été abattus lors d'une seconde attaque à Oicha, plus au nord. Selon les observateurs, il s'agirait d'opérations de représailles des ADF pour décourager les populations civiles de collaborer avec les FARDC, l'armée nationale congolaise. Au total, au moins 60 personnes ont été massacrées dans la région de Beni depuis l'annonce le 30 octobre d'opérations militaires des FARDC contre les bases des ADF dans la région. Toujours dans l'est de la RDC, un milicien a été condamné mardi à la perpétuité pour de nombreux viols et meurtres en 2018. La Fondation Panzi du prix Nobel de la paix Denis Mukwege était partie civile à ce procès. Les détails avec Eddie Sango.
Frédéric Massoudi Alimassi, dit Coco di Coco, a été reconnu coupable des crimes contre l'humanité par viol, empoisonnement, torture, meurtre, esclavage sexuel, disparition forcée, a indiqué le président d'un tribunal militaire à Bukavu. Il est le chef des Mai Mai Raia Mutomboki, l'une des dizaines de milices armées qui terrorisent les civils dans les deux Kivu depuis 25 ans. Deux autres miliciens ont été condamnés à 15 et 20 ans de prison. Deux prévenus ont été acquittés. Nous irons en appel à la Cour militaire du Sud Kivu, a déclaré l'une des avocates des prévenus, Maître Esther Bachougui. Dans la nuit du 8 au 9 février 2018, Massoudi Alimassi et ses miliciens ont fait irruption dans les villages de Kabikokole, dans les territoires de Shabunda. Ils ont pris en otage plus d'une centaine de femmes pour les violer l'une après l'autre, affirme la fondation Panzi du docteur Mukwege. Le procès a été ouvert le 12 septembre, moins de deux ans après les faits, dans une région où de nombreuses ONG locales et étrangères tentent de lutter contre l'impunité.
Relations États-Unis-Cameroun, Washington a appelé hier mardi à un vrai dialogue et à un transfert de pouvoir vers les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. L'administration américaine estime que la réponse militaire privilégiée par le gouvernement de Yaoundé ne fait que renforcer les séparatistes anglophones. Les précisions avec Jacques Aristide.
Lors d'une audition parlementaire à Washington hier, le secrétaire d'État américain adjoint aux affaires africaines, Tibor Nage, a déclaré que les conseillers du président camerounais, Paul Biya, lui faisaient miroiter une victoire militaire. Pour le diplomate américain, la vérité, c'est qu'il n'y aura pas de victoire militaire, dit-il, au conflit qui oppose les indépendantistes anglophones à l'armée. Chaque jour, davantage de Camerounais, qui étaient probablement au départ des Camerounais très loyalistes, commencent à se dire que la sécession est peut-être la bonne solution, a-t-il déploré. Tibor Nage a également relativisé le succès du grand dialogue national tenu début octobre par Yaoundé pour tenter de résoudre la crise marquée par le boycott des principaux groupes indépendantistes. Il doit y avoir un vrai dialogue et il doit y avoir un transfert de pouvoir vers ces régions. Il faut quelque chose qui ait suffisamment d'intérêt pour ceux qui sont encore dans le camp des modérés, plaide-t-il. Le conflit anglophone dans ce pays majoritairement francophone a fait plus de 3000 victimes en deux ans.
Processus de paix au Soudan, Khartoum a accepté de reporter au 10 décembre un nouveau cycle de négociations de paix avec les principaux groupes rebelles soudanais qui étaient prévus cette semaine à Djouba, la capitale du Sud-Soudan voisin. Les nouvelles discussions avec les groupes rebelles devaient débuter jeudi, mais Khartoum a accepté de les reporter à la demande des autorités sud-soudanaises qui mènent la médiation. C'est ce qu'annonce un communiqué du Conseil souverain soudanais au pouvoir à Khartoum. Ce groupe, formé de civils et de militaires, est chargé de superviser la transition du Soudan vers un régime civil, principale exigence du mouvement de contestation entamé en décembre 2018, qui a conduit à la chute de l'ex-président Omar al-Béchir en avril.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La lutte contre les djihadistes au Sahel maintenant. Au Burkina Faso, l'armée burkinabé a demandé à la France et aux autres pays intervenant dans le pays de l'informer désormais de tout déplacement d'aéronefs, faute de quoi ceux-ci seraient considérés comme ennemis. Pour une analyse, Bagassi Koura a joint à Ouagadougou le directeur de publication du journal Aujourd'hui au Faso, Dieudonné Zongrana.
Le 15 novembre courant, Burkina a adressé une correspondance à l'attaché militaire de l'ambassade de France pour un peu se plaindre, entre guillemets, du survol du territoire par des aéronefs français.
Alors, au même moment qu'on publiait cette note, les troupes du Burkina Faso et aussi de la France étaient ensemble sur le terrain lors d'une opération. Pourquoi ils n'ont pas discuté en face à face de ces questions-là?
En réalité, cette correspondance est sur les réseaux sociaux que les gens ont pris connaissance de cette missive-là. Maintenant, par rapport à l'opération dont vous faites ça, c'est l'opération Burkina, qui est une opération conjointe justement entre Barkhane et puis les militaires burkinabés. Et lors de cette opération, ça a débuté du 7 novembre jusqu'au 17, je crois, on a pu neutraliser 24 terroristes, saisir 64 véhicules, une centaine de téléphones et des munitions. Maintenant, pourquoi lors de cette opération, ils n'en ont pas parlé? Moi, je ne peux pas répondre à cette question, mais toujours est-il que les autorités exigent désormais de la France, avant tout survol du territoire, qu'il y ait une information 48 heures avant, qui donne le plan de vol avant que des aéronefs puissent survoler le territoire burkinabé.
Est-ce qu'il faut craindre que cette dernière sortie-là puisse fragiliser davantage les relations entre la France et le Burkina et d'une façon générale le Sahel?
C'est vrai que, bon, il y a des petites couacs, mais je crois qu'au sommet de l'État, ils arrivent à colmater ça. Ce qu'on demande en tout cas aujourd'hui, c'est que quand même, malgré cette présence française qui tenait pas seulement la France, il y a d'autres nationalités. Les Sahéliens ne comprennent pas qu'avec les drones, les blindés, cette orgie de moyens-là, malgré ça, les terroristes semblent avoir une longueur d'avance sur les Sahéliens. Ça, c'est vraiment incompréhensible. On parle même un petit peu de mystère.
Mais est-ce que cette situation, finalement, n'est pas comparable à l'Afghanistan où on a les États-Unis et aussi tous les pays de l'OTAN qui n'arrivent pas à s'en sortir depuis près de 20 ans?
Bon. Comparaison n'est pas raison, mais de plus en plus, et moi, c'est ma position en tant que journaliste, je l'ai dit il y a 6 ou 7 mois, j'ai dit que le tout guerre ne peut pas vaincre en tout cas cette guerre asymétrique-là. Il faut une diplomatie souterraine, et vous voyez justement, vous avez fait ça, des lointaines plaines talibanes où les Américains commencent à négocier avec les talibans. Les Américains négocient désormais avec les talibans. Donc ici aussi, il faut la guerre, mais il faut que de plus en plus, s'il faut faire la guerre, mais il faut prendre l'angle avec ceux qui nous attaquent pour essayer un peu de calmer les choses.
Dieudonné Zongrana, directeur de publication du journal Aujourd'hui au Faso. Actualité hors d'Afrique pour terminer, l'ONU a tiré la sonnette d'alarme hier après 4 jours de troubles en Iran. L'organisation internationale dit craindre que des dizaines de personnes aient été tuées lors des manifestations contre la hausse du prix de l'essence dans le pays. Le point avec Michel Joseph.
Nous sommes particulièrement alarmés par le fait que l'utilisation de munitions réelles aurait causé un nombre important de décès, a déclaré Rupert Colville, porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Des dizaines de personnes pourraient avoir été tuées, a-t-il ajouté, parlant également de plus de 1000 arrestations. Amnesty International a avancé que le bilan se situe entre 100 et 200 morts, dénonçant un recours à la force létale contre des rassemblements qualifiés de largement pacifiques. L'Iran est pratiquement coupé du monde depuis samedi soir. Le gouvernement de Téhéran a averti qu'Internet ne sera rétabli qu'avec le retour à un calme durable. Vendredi, peu après l'annonce d'une hausse du prix de l'essence, des dizaines de villes iraniennes ont été secouées par de violentes manifestations. Les autorités ont accusé les États-Unis de fomenter les émeutes. Le secrétaire américain Mike Pompeo et la Maison-Blanche ont apporté leur soutien aux manifestants.
Et ici aux États-Unis, poursuite à Washington de l'enquête sur une éventuelle procédure de destitution contre le président Donald Trump. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.